Bonjour, vous êtes dans des mots d'ici, des mots d'ailleurs, qui viennent sonder l'intérieur et l'extérieur de vos vies, en sons, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres, des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
J'ai été coccinelle, fourmi sur une branche, à la grande feuille verte voûtée comme fronton du ciel, immense et bleu, insecte, au végétal, à la tige, comme au pont. J'ai été chien aussi, battu par son maître, enfermé un coffre. Mais heureux malgré tout, le soir, d'entrer à la maison, racontant les coups, oui, mais personne n'entendant, ne jugeant pas mon maître, heureux quand même de près de lui. J'ai été la bête d'élevage intensif, jouant du piano avant un battage. Assommé d'électronarcose. Deux aiguilles plantées dans le crâne, de part et d'autre, et le choc électrique, le coup, la chute, le noir, la somme, assommé, néant. J'ai été le néant. Je me revois d'en bas avant, sentir cet homme sans bienveillance, aucun moment ne le jugeant, inquiet, attendant, mon sort, abandonné, offert, soumis, offrande. Retenant le bruit de ma peur, me tenant bien encore, au mieux toujours, enfin, rentrant l'arrière-train, cherchant à me faire petit, plus petit encore, abandonné, offert, comme une prière. Et bam! J'ai été Benjamin, dauphin d'une famille de quatre, inquiet de l'ombre sous moi, des algues peut-être, absurde. Un dauphin ne peut pas avoir peur de la mer, luttant mon cœur, luttant encore, allons, pour le régaillardir. J'étais au filet de métal des hommes fous, tapant dedans puis m'échappant de ces chapes de fer sonores, fuyant par les angles du bas, les mini-ouvertures encore, en bas à gauche, en bas à droite, fuyant, me faufilant, nageant, encore et encore, jusqu'aux voûtes marbrées des écoles sous la mer, des temples d'Atlantis où de beaux enfants d'or apprennent les plus belles choses, rient et se tiennent la main d'amour. J'ai chevauché la grande Raymanta. Elle chantait des mantras aux aquatiques landes, me guidant vers mon prince et ses douces ailes lisses glissant sur mes deux cuisses au-dessus des abysses, comme deux cils battant le tambour de l'office où je prenais service à la cour du souverain, du grand souverain, du roi. à la cour du grand roi des temps. La distance est une illusion. Le temps n'existe pas. En ton cœur, vois toutes les réponses dedans. En ton cœur, toutes les réponses. La question n'est qu'un pont. J'ai vu des dragons rouges et or, cracheurs de bleu. J'ai dansé devant eux, créature yine totale, à la crête irisée de bleu, d'œil de pan chatoyant, dansant devant l'ombre, dansant, tressant la lumière, dansant. J'ai été liane en équateur, tressée au pont suspendu, au passage d'une rive à l'autre, de l'harmonique du ciel à la terre, du visible à l'invisible, et l'enfant jouant dessus, et courant, traversant, et riant, l'enfant. Nue, j'ai été nue, brodée de la fragile confiance de la vie qui dépose aux ailes des papillons, couleur encore, couleur. Saline, mer de glace, cristaux de sel à bleu du ciel, lac de montagne, glacier, à pic et horizon, j'ai été rose et orangée, rose orangée de l'horizon. J'ai vu aux mers l'or à foison, aux ruisseaux danser les reflets, les hexagrammes, les ondines. J'ai été ondine, brin du jour, brin de feu, électrique, corde chantant, dansante, vibrante, aimante, j'ai été feu. Étincelle endormie, assoupie, renaissant au fond de tes yeux bruns, amour. J'ai été en ton corps comme aux profondes salles englouties, aux profondes luminescences de la terre souterraine, aux insensés volumes incrustés d'améthyste, luminescence. Essence, feu follet, luciole. Dans un champ foulé d'infrabasse, une nuit de pleine onde, sous les pieds remuants d'amoureux d'une lune. Tourbillon d'air, d'amour, énergie pure. M'enroulant autour de ce que j'aime, de ce qui souffre, de ce qui prie, de ce qui pleure, de ce qui rit. Renaissant au rire d'un enfant, jaillissant d'entre ses dents blanches, ses dents d'ivoire nacrées de joie, j'ai été toi. J'ai été moi. Le grand nous, le grand tout. Tourbillon, rayon, grand rayon du cœur, du centre, galactique expansion. Je n'ai jamais commencé et je ne finirai pas. Je n'ai jamais commencé et je ne finirai pas. Le livre des transformations en chinois, Yi Qing, appartient incontestablement aux livres les plus importants de la littérature universelle. Ses origines en remontent à une antiquité mythique. Il occupe aujourd'hui encore l'attention des plus éminents lettrés de la Chine. Presque tout ce qui a été pensé de grand et d'essentiel pendant plus de 3000 ans, l'histoire de la Chine, ou bien a été inspiré par ce livre, ou bien inversement a exercé une influence sur son interprétation. Au point que l'on peut affirmer en toute tranquillité que le Yi Qing contient le fruit de la sagesse la plus achevée de plusieurs millénaires. Le plus ancien livre de la Chine en est aussi le plus moderne. Le Yiking offre à l'homme une clé intemporellement neuve pour pénétrer l'énigme de son destin. Il nous entraîne, au-delà de toute théologie comme de tout système philosophique, à un degré de profondeur limpide où l'œil du cœur contemple l'évidence du vrai. L'unité est le fondement de l'univers. Mais pour être fréquent, le Taiki, le grand commencement, doit se sacrifier en se dédoublant, car à partir de ce qui est parfait, rien ne devient. Le monde ne nous révèle que le jeu des deux forces polaires, le mâle et la femelle, le plus et le moins, leur épousaille et les 10 000 êtres qui en sont le fruit. Le génial créateur des hexagrammes a su ramener cette variété sans limite à un schème mathématique enserrant la création comme un réseau, ou plutôt formant la trame qui la supporte et l'anime. Les 64 hexagrammes groupant deux à deux les 8 trigrammes obtenus en combinant de toutes les manières possibles les deux énergies primordiales constituent une image complète du monde. On conçoit l'admiration de Leibniz pour une telle épure. 3 triangles, le ciel, le père, le créateur fort. 3 triangles, la terre, la mer, soumise, abandonnée, réceptive. L'éveilleur, le tonnerre, le premier fils, l'aîné en mouvement, Khan, l'insondable, dangereux, l'eau, le fils, Ken, l'immobilisation, en repos, la montagne, le plus jeune représentant du ciel sur terre, le Benjamin. Swen, le doux, pénétrant, le vent, la fille aînée, la cadette, le feu, lumineuse, ce qui adhère, la Benjamine, le lac, joyeux, serein. Mais comme la rose du zodiaque, le déploiement circulaire des signes inventés par Phoï n'a rien d'une figure statique. C'est une succession de maisons qui parcourt toute existence, qu'elle soit organique ou inorganique, individuelle ou collective. Chacune de ces demeures se compose de 6 éléments ou traits qui lui confèrent sa structure propre. Le 6, dit Philon d'Alexandrie, est éminemment propre à la génération. Est-il impensable qu'après avoir longtemps considéré le ciel et la terre, le monde intérieur, le monde extérieur, un homme ait su interpréter l'interaction des facteurs opposés dans chacune de ces images premières et fixer ainsi sa place par rapport aux autres dans l'univers? Si les physiciens sont parvenus à forcer le sanctuaire de l'atome, pourquoi ne pas admettre qu'au prix d'une longue attention, quelqu'un ait pu passer plus loin que la multiplicité chaotique et en percevoir les lois constantes et universelles? Semblable vision requiert plus qu'un entraînement de l'intellect, elle implique une transformation du regard, c'est-à-dire de l'être tout entier, car si l'œil est simple, tout le corps devient lumineux. Les commentateurs du Yiking attestent au long des siècles l'existence d'une telle race de saints sages. Ils affirment que la fréquentation du livre est un moyen de choix pour apprendre à lire l'ordre de l'univers et tout en même temps établir l'harmonie en soi-même. Si nous connaissons les lois fixes de l'être et du devenir, rien ne nous surprend, rien ne nous affecte en notre fond le plus intime. Nous savons qu'il n'est pas d'acquisition définitive, tout moment est passage, l'apogée contient en germe le déclin, la défaite prépare la victoire future, la retraite est souvent la meilleure préparation du retour. Ainsi, nous gardons de nous identifier à l'extrémité heureuse ou malheureuse où le sort nous a porté pour considérer toujours en elle la présence secrète mais déjà en œuvre du pôle contraire. Ne cessant de marcher au milieu, nous sommes à l'abri des surprises du destin. On reconnaît ici l'attitude de détachement, de souple abandon, dans laquelle tous les enseignements voient le terme de l'homme, perte constante et féconde, où l'être possède le tout, paisible non-savoir qui surpasse toute intelligence. Tel est le secret de la sagesse du Yi Qing. C'est en cela qu'il a été une source d'infinie méditation pour Lao Tzu et Confucius. Mais l'on voit tout de suite comment cette connaissance des lois de la vie rend l'homme apte à pressentir les déroulements prochains et à déterminer sa conduite. Si, moyennant une discipline faite essentiellement de méditation, du livre et de consentement amoureux au rythme de l'univers qu'il reflète, nous avons appris à épouser l'harmonie du monde, chacun de nos actes, et avant tout ceux que nous accomplissons dans une atmosphère de religieux recueillement, manifeste un aspect de cet ordre unique. Lorsque dans une situation donnée, notre regard n'est pas assez lucide pour en discerner le sens, nous pouvons escompter qu'en laissant se former un hexagramme à l'aide de certains gestes soustraits au calcul de notre moi séparé, nous obtiendrons une figure qui sera une sorte d'image radiographique du moment. Les différents éléments en jeu apparaîtront et faisant nôtre une expérience millénaire transmise en énigme, nous nous rendrons à même de prévoir le développement à venir et d'adopter dans cette perspective l'attitude juste. Dès lors, il est vain de se demander si le Yi Qing est un livre sapientiel ou un simple recueil divinatoire. Le sage connaît l'avenir, non qu'une sorte de film mental lui en projette les images. La réalité est beaucoup plus dépouillée, totalement présent à l'instant où il est placé, il en déchiffre les composantes. Il voit les germes dont le moment est gros et oriente ainsi comme d'instinct son action. Un savoir aussi subtil ne peut, on le comprend, s'exprimer en langage conceptuel et logique. La vision du monde qu'il traduit est aux antipodes de celle de l'Occident. Notre science est analytique, elle isole soigneusement le phénomène étudié de son contexte, celle de l'Orient est synthétique, elle apprend à tout embrasser d'un seul coup d'œil et à lire les rapports. Dans l'immense symphonie du monde, nous nous appliquons à écouter les différents instruments l'un après l'autre, nous interdisant par là de saisir le sens de la partition. Le sage chinois, au contraire, laisse monter à la fois tous les chants, ne négligeant pas la plus humble note de la timbale ou du triangle. Chaque être, chaque instant pris dans son intégralité, est un visage du tout, une facette de l'unité indestructible. La transformation, dit un commentateur, c'est l'immuable. Pour transmettre cette connaissance, il n'est d'autre véhicule que l'énigme, l'expression paradoxale qui rassemble en elle-même les opposés ou, par son absurdité apparente, oblige l'esprit à interrompre son discours linéaire, fait refluer le courant mental et le contraint à traverser des couches plus profondes, plus proches de ce centre indicible où les contraires célèbrent leur noce éternelle. On comprend le désespoir des traducteurs occidentaux confrontés à une mentalité si étrangère à la nôtre. Et l'on serait prêt à pardonner les sarcasmes dont ils ont accablé les interprètes qui prétendaient découvrir dans le Yi Qing les abîmes de sagesse et de science. La lecture du livre des transformations réclame une longue patience, une grande humilité. Notre sens des déductions rigoureuses doit s'émousser pour faire place à une perception plus globale, poétique de l'univers. Au lieu de voir dans les hexagrammes une sorte d'algèbre figée, nous devons les saisir dans leur complexité de vivant et épouser leur dynamisme. Là encore, l'attitude qu'exige de nous les vieux maîtres rejoint étrangement celle des modernes explorateurs de la texture secrète des choses. Les physiciens de l'infiniment petit ne nous affirment-ils pas en effet que dans leur champ d'action, l'observateur ne peut plus demeurer à l'extérieur de la réalité observée et que le sujet doit faire corps avec l'objet qu'il contemple, devenant ainsi partie intégrante du phénomène? Nous n'aurons quelque chance d'entrer dans la caverne au trésor du Yi Qing qu'en abdiquant notre autonomie,
en adhérant à la situation étudiée, en nous mettant à l'unisson de l'ample respiration cosmique qui parcourt le livre. Toute hâte, toute impatience doivent être écartées. Lis, lis, relis, prie et tu trouveras. Le vieil adage alchimique est ici à sa place. Le Yi Qing ne se présente-t-il pas comme le premier traité des transmutations ? Et certes, il ne livre pas plus facilement ses secrets qu'un grimoire. Mais rien ne résiste à la simplicité confiante des cœurs épris de sagesse. Si tu n'as pas de maître, nous est-il dit, approche-toi du livre comme de tes parents. Et une autre parole plus proche de nous vient faire écho à ses conseils pour l'éclairer. Si l'un de vos enfants vous réclame du pain, lui donnerez-vous une pierre ? Combien plus votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?
Le temps marque de son empreinte les rides du mon visage, où les naufragés de la nef des fous, des quelques années à protéger ce bel enfant, de cœur à corps nu, dans le grand fauteuil du grenier vanté par le souffle de l'été, venu de la grande plaine parsemée de forêts. Des sillons de terre sur mon visage, effleurés des doigts, plumes d'oiseaux, qui sont peut-être les miens, peut-être les tiens, sont-ils mêlés de nos enfants ce crève-cœur, où le sourire des grands joue déjà notre héritage ? Alors, goûte l'alchimie subtile du parfum sur la peau. Divin dehors, poison dedans. Alors, serre-toi contre moi. Et ouvre-toi au monde, à nouveau tenter le diable et sa beauté. Apôtre de la témérité, à ma belle dévolue, à la vie, au jardin de pivoine, aux perles d'intention, à la joie des mains tannées, à la force, à la beauté du néant, à la vieille dame sans regret, quand tu n'es pas dedans, à l'envie de la vie. Au temps qui marque son empreinte, les souvenirs comme balise, la saveur comme valise, parti voyager dans l'infini, et ton goût sur ma peau, ce parfum reconnu cette première fois-là, aujourd'hui, puis chacun de mes autres jours, aussi de tes jours, de nos jours, mes yeux perleront sur toi, mes yeux perleront sur toi, mes yeux perleront sur toi, apprendront à accepter l'issue, même si je tisse mes mots, quand tangue mon esprit, mord mes lèvres. Retiens ma langue jusqu'à l'aube de mon dernier jour sur cette belle putain de terre. Qu'un sens ait cet esprit juste avant la pluie chaude des mots, juste avant que sonnent les mots, juste avant que les mots sonnent, qui marque le corps, le cœur et la main phare, indique le champ des possibles, éclaire ce bon vieux temps, océan de temps qu'il nous reste, pour qu'il soit beau tant et plus ce qu'il sera, semé dans le sillon de mes rides. De mon visage, témoin, jamais trop loin, vif et joyeux, de tout ce qui exhale, respire, vibre, réchauffe, donne la force d'aimer, puisque c'est ainsi que rien ne nous échappe, à part notre propre vie, et que la mort des autres n'est que vue de l'âme, et que l'amour des vivants s'étend infiniment, vous honore. Juste avant la plus chaude des mots, juste avant que sonnent les mots. Juste avant que les mots sonnent. Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon, Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands angles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu, ni le bois ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs, seulement la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent élevé bien au-dessus des terres n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant. Bientôt, lui que jamais ici on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ses marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux loups veteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient. Et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable, et semblable la danse, mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux, Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées, par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors, il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi, la gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer. Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds, a roulé. Le loup le quitte alors et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouaient au gazon tout baigné dans son sang, nos fusils l'entouraient. En sinistre croissant, il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et, sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses gros yeux, meurt sans jeter un cri. Ah, j'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre et, comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles, qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes, comment on doit quitter la vie et tous ces maux? C'est vous qui le savez, sublimes animaux. À voir ce que l'on fut sur terre et ce que l'on laisse. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté, gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurs, sans parler. Thank you. La nuit m'a envahi le jour de mes deux printemps. Dans un pays de brume qui appelle le sommeil. Je dors depuis ce jour où les grands m'ont privé de vivre ma vraie vie. Sans porter le chagrin d'adultes égoïstes fauchés en pleine jeunesse. Par le départ soudain d'une étoile précoce qui me protège dans loin ma coupable innocence d'un enfant de soleil éteinte de larmes amères. Les orphelins sont riches. D'une étoile de plus, il suffit de les convaincre pour qu'ils traversent la vie sans être l'âme battée, porteur de jarres si lourdes, emplies de perles d'eau saline quand la mer monte, déborde sur mon visage, déborde sur mon rivage. Mon visage depuis n'a pas vraiment vieilli. La nuit m'a envahi le jour de mes deux printemps. Dans un pays de brume qui appelle le sommeil, qui appelle la clémence, la preuve de mon innocence. Deux printemps, c'est très peu pour être condamné. Condamner un enfant, c'est fuir sa propre lumière. Condamner un enfant, c'est fuir sa propre lumière. Les réverbères sont là. Il faut les allumer. Les allumer vraiment. Ils rassurent mon enfant. Tous ceux de cette terre, au moment où je vous le dis, maintenant c'est fini, la belle indifférence. Au nom de nos chagrins, la nuit m'avait envahi le jour de mes deux printemps. Dans un pays de brume qui appelle le sommeil. Dans ce pays de brume, les gens sont vraiment durs, tu sais, et le secret est vicieux. Il réanime les vieux qui ont survécu à tout. Il réanime les vieux qui ont survécu à tout. Il occupe leur journée, habitués au malheur, pas vraiment équipés, pour porter cet enfant, cette bande de vieux cons, cette bande de vieux cons. Dans la vie maintenant, cet enfant sourit face à moi. Les vieux sont morts maintenant, et la vie, bien présente. Dans ce pays de mes deux, printemps toujours heureux. Dans ce pays de brume, dans ce pays de mes deux, dans ce pays de mes vieux, printemps, toujours heureux. Schlafe mein Prinzen, schlafe ein, schlafe ein, schlafe ein. Thank you. enfants de 50 ans ont quelque chose que moi j'ai pas, qui semble les rassurer, encore quelque peu activés de quelques souvenirs palpitants. C'est drôle, parfois une tristesse envahit leurs regards, un demi-siècle pour apprendre à rire, à pleurer, à vibrer, à brûler juste ce qu'il faut, à enfin pardonner. Ça, c'est le plus long, à se pardonner. Ça, c'est le plus dur, à accepter tout de cette vie, à balayer l'orgueil, à faire le deuil de ses secrets, des souvenirs où manque à l'appel des visages des survivants. Parti rejoindre un autre que moi, une autre que toi, j'ai beau me le dire, le passé c'est le passé, mais tu sais, 50 ans, c'est un âge de nouilles. J'ai beau me le dire, le passé c'est le passé, mais 50 ans, c'est un âge de nouilles. Dans l'océan du temps, dans l'océan du temps, je l'adopte, car je suis un errant. Je ne me suis pas toujours laissé le choix, celui des rois de 30, des empereurs de 40. Les amants de 50 ans ont quelque chose que moi j'ai pas, qui semble les rassurer, encore quelque peu activés, de quelques parfums d'antan. Entends-tu ? Entends-tu ? Puisque tu sais bien, des territoires ne sont plus à visiter, sans risquer de s'échouer. Sous peine d'ennui, j'ai beau me le dire, le passé c'est le passé. Mais 50 ans, c'est un âge de noyer. Dans l'océan du temps, 50 ans, j'ai beau me le dire, le passé c'est le passé. Mais 50 ans, c'est un âge de noyer. 50 ans. 50 ans, c'est un âge de noyer dans l'océan du temps. Quand la chance te sourit, tu te montres disgracieuse, indifférente ou simplement absente, avec cette moitié qui te ressemble dans le miroir d'une rencontre. Que vois-tu donc ? Que vois-tu donc ? Dans cette offrande de temps, dans cet espace tant espéré, accueilli aux terrasses des marronniers sentinelles, mémoire immobile, balise souvenir, je vous emporte dans ma valise au cœur simple et chasse les soirs glacés où mon enfant reste au bord du chemin sans maudire, sans détour d'un seul au revoir en emportant au loin ton butin de caresses. Humain oiseau passager au visage solaire, toujours en quête du grand soir, tu sais la louve s'abandonne en y croyant si fort, distribuant son regard, bouquet sauvage fleuri sur un lit de fougère. Avec au fond d'elle la saine folie de rechercher sans cesse l'espace des dieux qui l'ont envoyé sur terre. Louve lape son frère sur le bout du museau, avec ce regard intense, magnétique de douceur, car la lune, chaque soir, lui caresse en souriant le contour de ses yeux, fille et mère, sans souci, dans la nuit mère, océane, poissonneuse d'étoiles. 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 L'ouvelape son frère sur le bout du museau. Dune verte, vie présente, arbre témoin, allée simple, géométrie musicale, sonate angélique, prairie tintante, empruntant d'oiseaux. Rime vitale, ombre tatuée, véhicule immobile, angélus éternel. Mer oubliée, terre-océane ondulée, nuages étalés, chemin des possibles. Le château d'or sur l'onde vallée, les chants d'oiseaux maternent mon ouïe. Vie présente, vibrante et vraie, main prière soin du vol ternu, des patapis le sentier, des promeneuses vont revenir. Dune verte, vie présente, arbre témoin, vitale rime tatouée d'ombre d'arbre, imagine, imagine. Divine journée au presbytère, l'attente est belle et féminine, Voltaire attend sa tapissière, Voltaire attend sa tapissière. L'attente est belle et féminine, divine journée au presbytère. Vital rime tatouée d'ombre d'arbre, imagine. Voltaire attend sa tapissière. Voltaire attend sa tapissière. Voltaire attend sa tapissière. Dune verte, vie présente, arbre témoin, allée simple, géométrie musicale, sonate angélique, prairie tintante, empruntant d'oiseaux. Vital rime tatouée d'ombre d'arbre, imagine. Voltaire attend sa tapissière, des promeneuses vont revenir. Voltaire attend sa tapissière.
Ça arrivait toujours à un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on était plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage et les émigrants, et d'autres gens bizarres, et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un. Un seul sur tout cela, un seul qui le premier la voyait.
un qui était peut-être là en train de manger ou de se promener simplement sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan, et il la voyait. Alors il s'immobilisait là, sur place. Et son cœur battait à en exploser. Et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait « L'Amérique !» Et puis il restait là sans bouger. Comme s'il devait rentrer dans la photo avec la tête du type qui se les fabriquait tout seul, l'Amérique. Le soir, après le boulot, et des fois aussi le dimanche, son beau-frère l'a peut-être un peu aidé, celui qui est maçon, un type bien. Au départ, il voulait faire juste un truc en contreplaqué, et puis il s'est laissé entraîner et il a fait l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique, sur chaque bateau, il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, non. Ni même une question de bonne vue, c'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours, dans leur vie, ils avaient cet instant-là décrit. Même tout petit, si tu les regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs ou du sang ou je ne sais quoi. Et puis de là au cerveau, puis sur la langue, et puis dans ce cri « L'Amérique !» Elle était déjà là, dans ses yeux d'enfant, déjà là tout entière, l'Amérique. Là, qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Boudman Tidy Lemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça, ce qu'ils verront.
Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique. Sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux m'ont chanté sans pour la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand. Sans un sou, mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux vont chanter sans fin la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique.
J'en ai vu, moi, des Amériques. 7 ans sur ce bateau, 5 ou 6 traversées par an, d'Europe jusqu'en Amérique et retour, toujours à tremper dans l'océan. Quand tu redescendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Les chiottes, ils ne bougeaient pas, mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre. Mais de l'océan, non. J'y suis montée, moi, j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi, jouer de la trompette. Alors quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas, sur le port, je me suis mis sur les rangs, avec ma trompette. Janvier 1927. Des musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais. Et je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là, à me fixer. Pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'aie fini, sans dire un seul mot. Et puis il m'a demandé, c'était quoi ? Je sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. Quand tu ne sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Puis il a fait un truc bizarre avec la bouche, peut-être un sourire. Il avait une dent en or juste là, tellement au milieu, qu'on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre. Ils en raffolent de cette musique là-haut. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagée. On jouait 3-4 fois par jour. D'abord pour les rupins, en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes, et de temps en temps, on allait voir ces miséreux des migrants et on leur jouait quelque chose, mais sans l'uniforme. Comme ça nous venait. Et quelquefois, eux aussi, ils jouaient avec nous. On jouait parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer et qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser. Parce que si tu danses, tu ne meurs pas et tu te sens Dieu. Et on jouait du ragtime parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde. Sur laquelle Dieu danserait s'il était nègre.
Thank you. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Signore et Signori, Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ce navire, bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic. On se calme, on reste assis, le monsieur là-bas touche du bois, je le vois. Bienvenue sur l'océan, donc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? C'était un pari? Vous aviez les créanciers aux fesses? Vous êtes en retard de 30 ans sur la ruée vers l'or? Vous vouliez visiter le bateau et vous ne vous êtes pas aperçu qu'il était parti? Vous étiez juste sorti pour acheter des allumettes? En ce moment, votre femme est chez les flics. Elle dit pourtant que c'était un type bien, tout à fait normal. 30 ans de mariage et pas une dispute? Bref, qu'est-ce que vous pouvez bien fiche ici à 300 000 de n'importe quel bon dieu de monde et à 2 minutes du prochain dégueulis? Pardonnez-moi, madame, je plaisantais. Ne vous inquiétez pas, ce navire file tel une boule de billard sur l'océan. Tchac! Plus que 6 jours, 2 heures et 47 minutes et blop! Dans le trou, New York! Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer que ce navire est à bien des égards un bateau extraordinaire et tout compte fait unique en son genre. Sous le commandement du capitaine Smith, claustrophobe notoire et homme d'une grande sagesse, vous avez sans doute remarqué qu'il dort dans un canot de sauvetage, travaille pour vous une équipe pratiquement unique de professionnels qui, tous, sortent de l'ordinaire. Paul Sizinski, notre pilote, ancien prêtre polonais, sensitif, pranothérapeute, hélas aveugle. Bill Young, notre radio, grand joueur d'échecs, manchot et affligé de bégaiement. Notre médecin de bord, le docteur Klaus Hermann Spitz-Wegens-Dorfenstag, pas très pratique en cas d'urgence, mais surtout, monsieur Pardin, notre chef cuisinier, arrivé directement de Paris, où il est cependant aussitôt reparti après avoir constaté de visu que ce navire, par une curieuse circonstance, est totalement dépourvu de cuisine, comme l'avait d'ailleurs finement remarqué M. Camembert, cabine 12, qui s'est plaint aujourd'hui d'avoir trouvé son lavabo rempli de mayonnaise. Ce qui est surprenant, car en général, dans les lavabos, nous rangeons les tranches de fromage. Ceci, en raison de la non-existence des cuisines, à laquelle il faut d'ailleurs attribuer l'absence sur ce navire de véritables cuisiniers. Ce qu'était sans aucun doute possible M. Pardin, aussitôt reparti pour Paris, d'où il arrivait directement, persuadé de trouver ici des cuisines qui, reconnaissons-le si l'on s'en tient aux faits, n'y sont pas. Et cela en raison d'un amusant oubli de l'homme qui a conçu ce navire, l'éminent ingénieur Camilleri, anorexique de réputation mondiale, auquel je vous demanderai de bien vouloir adresser vos applaudissements les plus chaleureux. Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres. Peut-être en cherchant pendant des années, pourriez-vous retrouver un capitaine claustrophobe, un pilote aveugle, un radio qui bégaye, un docteur au nom imprononçable, tous réunis sur le même navire et pas de cuisine. Peut-être. Mais ce qui ne vous arrivera plus jamais, ça vous pouvez en jurer, c'est d'être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau, en plein milieu de l'océan, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'unique, de l'inimitable, de l'immensément grand Atlantic Jazz Band. À la trompette, Tim Tooney. À la clarinette, Sam Sleepy Washington. Au banjo, Oscar de la Guerre. Trombone, Jill Jim Breath Gallop. À la guitare, Samuel Hawkins. Et enfin au piano, Danny, Boodman, Teddy, Lemon, Novecento, le plus grand. Il il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique. Lui, c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à le jouer, ok ? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. Ça n'était plus là, définitivement. Danny Boudman, Teddy Lemon, Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe, sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait, tu n'es pas vraiment fichu tant qu'il te reste une bonne histoire et quelqu'un à qui la raconter. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue, à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami. J'en ai fait des conneries. On mettrait la tête en bas que rien ne sortirait de mes poches. Même ma trompette, je l'ai vendue. J'ai tout vendu. Mais cette histoire-là, non. Cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là, limpide et inexplicable. Comme seule la musique pouvait l'être quand elle était jouée au beau milieu de l'océan par le piano magique de Danny Boudman, Teddy Lemon, Novecento. C'est un marin appelé Danny Boudman qui l'avait trouvé. Il les trouva un matin, alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Il ne pleurait même pas. Il restait là sans faire de bruit, les yeux ouverts dans sa grande boîte. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça en général. Ils accouchent à la sauvette, quelque part sur le pont, et ils laissent le gosse là. Pas qu'ils soient méchants, non, mais c'est la misère noire. Un peu comme pour leurs habits. Ils montaient à bord avec des pantalons tout rapiécés au cul, chacun avec ses habits qui craquaient partout, les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restera toujours l'Amérique, tu les voyais descendre tous bien habillés, avec même une cravate. Les hommes et les enfants, des genres de chemises blanches. Ça, ils savaient y faire. Pendant ces 20 jours de traversée, ça coupait, ça cousait. À la fin, sur le bateau, tu ne trouvais même plus un rideau, plus un drap, rien. Il s'était fait le beau costume pour l'Amérique. Et à toute la famille, tu pouvais rien leur dire. Bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi par là-dessus un mouflet. Autrement dit, une bouche de plus à nourrir. Pour un émigrant et un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors il le laissait sur le bateau. En échange des rideaux et des draps, quoi. C'est ce qui avait dû arriver pour ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement. Si on le laisse sur le piano à queue, dans la salle de bal des premières, peut-être qu'un Rupin va le prendre et qu'il sera heureux toute sa vie. C'était un bon plan, qui marcha à moitié. Rupin, il ne le fut pas, mais pianiste, oui. Et le plus grand, je le jure, le plus grand. Bon, bref, le vieux Boudman le trouva là et chercha quelque chose disant qui il était. Mais il ne trouva qu'une inscription sur le carton de la boîte imprimée à l'encre bleue. Teddy Limoni. Il y avait même une espèce de dessin avec un citron. Bleu lui aussi. Danny, c'était un nègre de Philadelphie. Un géant d'homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon !» Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha. Quelque chose comme la sensation qu'il était devenu père. Pendant tout le reste de sa vie, il continua à prétendre que Teddy, ça voulait dire évidemment « Thanks, Danny ». Merci, Danny. C'était absurde, mais il y croyait. Ce môme, on l'avait laissé là pour lui. Il en était sûr. Teddy, thanks, Danny. Un jour, quelqu'un lui apporta un journal où il y avait une réclame. Et un type avec une tête d'imbécile et des moustaches fines fines, genre Latin Lover, et un citron gros comme ça, dessiné. Et ce qu'il y avait décrit à côté, c'était Tano D'Amato, le roi des citrons. Tano D'Amato, le citron des rois. Avec je ne sais quel certificat au premier prix ou quoi. Tano D'Amato. Le vieux Boudman, il n'a pas fait un pli. C'est qui ce pédé, il a dit. Et il s'est fait donner le journal parce qu'à côté de la réclame, il y avait les résultats des courses. Il n'y jouait pas aux courses. C'était les noms des chevaux qui lui plaisaient. Seulement ça. C'était une vraie passion. Il te disait toujours « Écoute celui-là, écoute, il a couru hier à Cleveland, écoute, ils l'ont appelé, cherche embrouille !» Non mais tu te rends compte, c'est pas Dieu possible. Et celui-là, regarde, peut mieux faire, c'est pas à crever de rire. Il aimait ça, les noms des chevaux. C'était sa passion, quoi. Lequel avait gagné s'en tamponnait complètement. Ce qui lui plaisait, c'était les noms. Cet enfant-là, il a commencé par lui donner le sien de nom. Danny Boonman. La seule vanité qu'il se soit jamais accordée. Puis il a ajouté Teddy Lemon, exactement comme c'était marqué sur la boîte en carton, parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des lettres au milieu de son nom. Tous les avocats, ils en ont, confirma Burry Byrne, un machiniste qui avait fait de la prison grâce à un avocat qui s'appelait John Pitika Wander. S'il fait avocat, je le tue, déclara le vieux Boonman. Mais il lui laissa les deux initiales à l'intérieur de son nom, ce qui donna Danny Boonman Teddy Lemon. C'était un beau nom. Ils se l'étudièrent un peu, en se le répétant à voix basse. Le vieux Danny et les autres, en bas, dans la salle des machines. Mais les machines éteintes, tout ça trempant dans l'eau du port de Boston. Un beau nom, finit par dire le vieux Boonman. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque un grand final. C'était vrai. Il lui manquait un grand final. On n'a qu'à ajouter mardi, dit Sam Stull, qui était serveur. Tu l'as trouvé un mardi, t'as qu'à l'appeler mardi. Danny réfléchit un peu, puis il sourit. C'est une bonne idée, Sam. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle. On va l'appeler Novecento, 1900. Novecento, Novecento, 1900. Mais c'est un chiffre, c'était un chiffre. À partir de maintenant, c'est un nom. Danny Boonman Teddy Lemon Novecento. C'est parfait. C'est magnifique. Un sacré grand nom, Christ. Vraiment, un grand nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boonman Teddy Lemon Novecento les regarda et sourit. Ils en restèrent babas. Ils n'auraient jamais cru qu'un môme aussi petit puisse faire autant de merde.
Plong.
Vous étiez dans Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Émission qui a lieu une fois par mois. Qui vient sonder l'intérieur et l'extérieur de vos vies en sons, en mots et en notes. Et tout ceci est dû à une suite de rencontres. Rencontre avec Monsieur Christophe Becro, qui nous fait admirablement le son et qui prête ses talents dans un espace réservé à vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, une invitée spéciale, Volti, merci beaucoup d'être venu et prêter ta voix à un texte que tu as écrit du répertoire de Rita Glinglin. Retenez ce nom, vous allez bientôt ne pas l'avoir chantée à l'Olympia, mais dans toutes les villes de France où, franchement, elle mérite d'être reconnue. Merci, Volti.
Merci, James.
Un grand merci à Nathalie Vautier qui nous a fait un final somptueux à base d'Amérique et de beaucoup d'humour à l'italienne. En tout cas, ce pianiste, on aimerait bien le rencontrer. Merci beaucoup à toi.
Merci.
Vous avez entendu le son de nos voix, le son d'une corne de brume. Vous avez aussi entendu les textes du Yi Qing qui est le livre des transformations. Version de Richard Wilhelm, traduction française d'Étienne Perrault aux éditions Médicis. Vous avez entendu un texte lu par Volti du répertoire de Rita Glinglin, Animaux. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. À chaque fois que vous avez l'occasion de nous écouter, n'hésitez pas. Cette émission a été particulièrement compliquée parce que nous sommes tous atteints aujourd'hui du syndrome Gilles de la Tourette. Donc ça a été une retenue permanente de ne pas raconter n'importe quoi. Ah, trou de mémoire, j'ai aussi oublié le livre d'Alessandro Baricco, Novecento, pianiste. Voilà.
Et les œuvres et la voix de James Fontaine pour nous accompagner sur Fréquence Mistral. Merci James.
On vous souhaite un bel été et puis gardez le moral. La vie est tout autour de nous, quoi qu'il se passe sur Terre. N'oubliez pas ça. Et puis rêvons encore. Prochain rendez-vous, le dernier jeudi du mois d'août. Voilà, vous n'avez plus qu'à chercher sur le calendrier, vous se trouverez facilement. Bonsoir.